Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à toutes et à tous, une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne. Quels sont les jeunes compositeurs de la musique contemporaine? Comment se sont-ils lancés dans cette aventure de l'écriture musicale? Que signifie pour eux composer de la musique? Comment perçoivent-ils le métier de compositeur? Comme vous le savez, depuis quelques semaines, nous sommes en lien avec des jeunes compositeurs. Et pour cette troisième et dernière émission consacrée justement à cette jeune génération, Résonance vous propose d'aller à la rencontre de deux étudiants de la classe d'électroacoustique du Conservatoire de musique à rayonnement régional de Lyon, classe de Stéphane Borel. Et aujourd'hui, nous irons rencontrer Fanny Bouteiller et Nathan Nadal. Enfin, nous aurons également un échange avec Cyril Darmedru, membre du conseil d'administration du groupe de musique vivante de Lyon, avec lequel nous évoquerons les projets et l'avenir de ce très important centre de ressources pour les musiques électroacoustiques. Et ces entretiens, comme depuis 15 jours maintenant, se sont déroulés le 22 février dernier au théâtre de la Villa Gilet, en collaboration avec le groupe de musique vivante de Lyon.
Super. Bonjour Fanny Bouteiller.
Bonjour.
Merci en tout cas d'être là. On profite un peu de ce concert qui a lieu aujourd'hui dans la Villa Gilet, dans le cadre aussi du GMVL, puisque c'est une collaboration. Peut-être pour commencer, pour entrer en matière, comment vous en êtes arrivé, vous, à vous aventurer sur justement les chemins de la création musicale? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu des attirances, que la matière sonore vous a parlé et puis que vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose?
Par curiosité, simplement. Curiosité. Je savais qu'il y avait cette classe au conservatoire.
Ouais.
Et moi, je suis bassiste, contrebassiste.
Oui, donc déjà, vous aviez une pratique.
Et voilà, c'est ça. Donc, j'ai une pratique du terrain. Ouais. Je savais que cette classe existait et je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Et en fait, ouais. J'adore.
Vous adorez.
J'ai été prise, voilà, et j'adore et je veux continuer. Et, ça me, voilà,
et est-ce que quand vous étiez instrumentiste, déjà, je dirais, outre bien sûr de s'aventurer sur votre instrument, et j'imagine dans différentes manières aussi musiques que vous avez pu interpréter, il y avait déjà quelque part cette envie aussi,
oui,
de manier la matière avec,
oui,
ce que vous ressentiez, vous, à l'intérieur?
Exactement. Par exemple, avec l'improvisation,
oui,
en jazz, ouais, ou autre, hein, pas forcément en jazz d'ailleurs.
Ouais.
Mais déjà, j'étais attirée par ça. Et voilà, cet outil de composition en électroacoustique me parlait d'aller au-delà.
Alors,
pas
aussi
forcément d'improvisation,
bien
mais
sûr,
toutes les idées que je peux avoir et que je ne peux pas concrétiser avec mon instrument, je peux les faire avec ça, avec l'électroacoustique. Et donc, c'est super. Voilà.
Et j'imagine que, du coup, est-ce que ça a encore ouvert des paramètres?
Ouais, complètement.
Ouais.
Une autre écoute, et des matières différentes, et ça, c'est vachement enrichissant, en fait.
J'imagine. Et est-ce que vous pratiquez toujours un petit peu instrumentalement?
Ah oui, complètement.
J'allais,
oui,
dire, est-ce que, du coup, ça revisite aussi, quelque part, votre place d'instrumentiste ou d'interprète, aussi, le fait d'être engagé également sur ce terrain et sur... la manière, vous parliez d'écoute justement, sur la qualité de cette écoute, enfin, en tout cas, que c'est plus les mêmes manières d'écouter.
Bah oui, complètement.
Ouais.
Je reste quand même vachement plus instrumentiste,
oui,
mais
parce que c'est là votre ancrage.
Voilà, c'est ça, c'est là que je travaille, quoi. Mais c'est vrai que ça m'ouvre aussi à cette esthétique, et il y a tout ce mouvement qui n'est pas, ouais, forcément beaucoup écouté, justement,
oui,
et pas forcément pris au sérieux, non, enfin, pris au sérieux. Et du coup, j'ai une autre sensibilité. Voilà, ça développe ma sensibilité par rapport aux autres compositeurs et à cette musique qui est faite aussi, par exemple, en live.
Oui, bien sûr.
En impro libre.
Hein,
voilà, c'est ça, par exemple.
C'est important, parce que là, nos auditeurs vont aussi, pour certains, peut-être découvrir aussi, par le biais des témoignages des différents étudiants de la classe,
ouais,
peut-être un peu aussi cet univers.
Voilà.
Mais il faut rappeler que c'est une musique, effectivement, qui se travaille sur ordinateur. Enfin, on,
voilà,
pourrait rentrer dans le,
oui,
détail, mais,
ça,
mais elle se joue, cette musique. C'est une,
voilà,
musique vivante.
Exactement. C'est, hein, juste un outil, c'est l'instrument, l'ordinateur. Voilà. Mais...
Et peut-être, justement, gardons ce terrain de dire que c'est une musique vivante, mmh, et qu'on la joue. Juste, peut-être, là aussi, de nous préciser comment on la joue, avec quoi on la joue.
Avec quoi on la joue? Bah là, aujourd'hui, par exemple, on va la jouer sur des enceintes, sur un acousmonium.
Mmh.
Donc moi, quand on joue, on s'amuse avec l'espace et le mouvement des enceintes. Donc ça, c'est nouveau. En plus, on ne sait pas faire ça. C'est rigolo. C'est, même nous, on se surprend quand on... Ouais. D'accord.
Est-ce que des fois, justement, de découvrir que vous avez... parce que la relation de la musique et de l'espace existe depuis très longtemps et ça a toujours été une dimension incroyable. Mais en même temps, vous l'avez en... J'irais, vous pouvez jouer encore de manière beaucoup plus rapide et vous parlez de surprise aussi également, d'envoyer à tel endroit, d'envoyer à tel autre. Et ça doit être aussi quelque chose d'hyper intéressant, jouissif, j'irais même. Et puis même, du coup, ça peut peut-être faire bouger votre processus de composition.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on peut faire la pièce autrement.
C'est ça.
On peut changer la pièce, même si le squelette, il est tel. Mais... Ouais. Et on peut s'amuser, en fait, tout simplement pour avoir un volume différent, une sculpture différente, quoi. Avec la même pièce, donc c'est cool.
Et est-ce que je dirais, parce que donc il y a de multiples manières de composer aujourd'hui, c'est très vaste.
Oui.
Il n'y a pas une seule manière aujourd'hui de composer. Mais quand je vous entends aussi, est-ce que du coup vous seriez plus dans l'idée de que les choses ne soient pas tellement tout figées, c'est-à-dire que du coup de laisser une part, tout à l'heure vous parliez improvisation, de par rapport à ce que vous faisiez, est-ce que vous, dans votre manière d'imaginer la pièce, il y a aussi cette idée de peut-être de la laisser, je dirais, un petit peu en suspension, de ne pas tout figer, pour qu'il y ait des choses qui se passent encore dans le moment du jeu, ou dans le moment du travail des interprètes, ou dans... C'est un axe qui vous intéresse, vous, à l'intérieur de votre
complètement.
Processus.
Voilà, il se trouve que ma pièce, elle est fixe, entre guillemets. Oui. Mais par contre, ouais, complètement, il faut développer. Ouais. Toutes les idées sont bonnes. Il n'y a pas une façon de faire, évidemment. Ouais. C'est composer, il y a des milliards de solutions possibles. Et ouais, il faut attraper une idée, puis la développer, quoi.
Oui, alors justement, prenons ce chemin... vous avez en projet, donc du coup, est-ce que c'est dans le moment de l'expérimentation que l'idée va prendre forme, ou est-ce que du coup l'idée va peut-être un peu se formuler un petit peu avant, il va y avoir des indices, des sensations, peut-être des repères textuels, peut-être d'autres choses qui vont être là, qui vont vous dire tiens, c'est à partir de ça que j'ai envie de travailler, ou est-ce que ça vient au fur et à mesure du jeu de le maniement d'expérimentation?
Les deux m'arrivent. Des fois j'ai des idées assez floues, d'un texte par exemple, comme vous dites. Et donc j'ai envie d'embellir ce texte, ou par exemple. Mais à l'inverse, quand j'improvise par exemple en jazz, j'enregistre tous mes choruses par exemple, et je me dis oh, cette phrase a été bien. Et je vais développer quelque chose à partir de cette phrase que j'ai expérimenté, par exemple. Donc il y a plein, voilà, les deux me semblent.
Oui, les deux vous semblent.
Enfin, en tout cas, vachement bien et enrichissante, quoi.
C'est ça. Et de préserver cette, je dirais, cette suspension jusqu'au bout, ça vous semble aussi intéressant.
Ah oui, complètement. Certains
de compositeurs ont prévu aussi ce genre de choses. Hein. Ouais. Se sont dit, je fixe pas choix. Tout pour. Font des choix, justement, pour permettre que, du coup, ça bouge encore, ça évolue encore, ça reste pas fixé. Puis qu'à chaque fois, peut-être que c'est jamais la même chose, d'ailleurs.
Oui, après, ça dépend dans quelle esthétique. Mais,
Bien sûr.
Mais moi, j'aime l'aspect vivant, pas forcément fixe, après ça dépend, quoi. Par exemple, en électroacoustique, oui, je vais fixer les choses, mais j'aime l'aspect vivant, des choses.
Et donc, du coup, ça vous arrive aussi de penser, vous êtes instrumentiste, donc est-ce que du coup, à certains moments donnés, vous pensez mixte aussi, c'est-à-dire que là aussi, quelquefois, ça se mélange avec un instrument en live en direct et puis un travail électroacoustique, c'est des choses qui vous intéressent, ou peut-être pas du tout, d'ailleurs?
Oui, je ne l'ai pas encore fait, mais ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup, ce métissage, j'espère bientôt le faire.
Et du coup, entre ce que vous pratiquez, ce que vous découvrez, est-ce qu'il y a des esthétiques, des styles, il y a tellement une foison aujourd'hui d'univers musicaux. Quels sont ceux peut-être qui vous parlent le plus aujourd'hui, enfin en tout cas qui vous nourrissent?
Honnêtement, je me nourris de tout.
De tout.
J'ai besoin de tout.
Oui, besoin de tout.
Mais vraiment, je pourrais pas dire.
Vous écoutez peut-être de la musique classique ou de la musique grégorienne, comme vous écoutez du rap.
Complètement, de la techno, de la house du contrepoint.
Quel regard vous portez justement, ne serait-ce que sur ces musiques-là, qui jouent aussi, on est voisins quand on regarde aussi un peu les fondamentaux de l'électroacoustique, et quand on regarde tous ces processus de répétitivité, de superposition, de collage,
de trance,
de mise en boucle, de trance, il y a beaucoup de passerelles.
De jumelles, quoi, bien sûr.
Exactement.
On travaille du son, de texture, et c'est pas le même monde, entre guillemets, parce qu'il y a un côté dansant et l'autre d'écoute assise, je sais pas comment dire, mais mais il y a le travail du son.
La réception n'est pas la même.
Voilà, la réception n'est pas la même. Ouais. Mais quand même, ça reste quand même, à mon sens, assez proche, parce que le travail du son, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de passerelles, je pense. Beaucoup de passerelles à avoir.
Et là, vous évoquiez peut-être tout à l'heure, au début de notre entretien, ces circulations, là, justement.
Ouais.
Est-ce que une population, justement, qui écoute beaucoup, tous les jeunes d'ailleurs d'aujourd'hui, qui écoutent beaucoup toutes ces musiques, pensez-vous qu'ils feraient facilement aussi des passerelles vers les types de musique que vous faites ?
Pas aussi facilement, non.
Pas aussi
J'ai
facilement.
Pas beaucoup d'amis, non. Qui,
du coup, mais quand vous faites écouter plus... à vos amis proches, comment ils réagissent par rapport à
la
ça ?
Moitié vont pas être réceptifs. C'est pas grave.
Et justement, qu'est-ce qui fait qu'ils, à votre avis, qu'ils sont pas réceptifs ?
Parce qu'ils sont pas habitués. Complètement, de culture, et ils ont pas été sensibilisés à ça, c'est tout. Ou simplement, ils aiment pas.
Ouais. Voilà. Ce qui est le droit de tout le
complètement.
Monde. Tout un chacun, effectivement, voilà. Peut aimer. Mais est-ce qu'il y a des fois, ils ont pas des chocs, si je peux dire, aussi artistiques ?
Ça arrive.
Le fait que vous leur faites écouter quelque chose.
Ça existe. Aussi, ça fait plaisir, ça.
Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, du coup, oui, créer des occasions, c'est là où il y aurait des choses à effectivement imaginer pour que, du coup, on entende
faire
un peu
découvrir.
Plus cette musique, et puis tu te rends compte que finalement, on disait tout à l'heure, il y a plein de passerelles.
Ouais,
et que là,
exactement.
Il y a quelque chose d'important.
De chambouler un peu les
c'est
gens.
C'est ça. Oui, il y a un peu d'écloisonnement.
Ouais, voilà.
Même la musique électroacoustique en subit aussi les conséquences.
Complètement.
Un écloisonnement, elle y est aussi pour fautif des fois à certains moments donnés.
Ouais.
Il y a d'autres raisons aussi qu'on n'a pas le temps de développer ici. Mais,
bien sûr.
Mais les cloisonnements aussi sont là. Et c'est vrai que pouvoir tisser des ponts, je crois que c'est Nono qui disait ça, lui, ce qui était le plus important, c'était de tisser des ponts et des passerelles.
Oui, moi j'aime cette idée aussi. Ouais, j'aime aussi ça. Ouais.
Merci beaucoup, Fanny.
Merci à vous. C'était
et à bientôt.
À bientôt. Merci.
Résonance sur Radio B, émission spéciale avec les jeunes compositrices et compositeurs de la classe électroacoustique du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. Et là, nous venons d'entendre une pièce composée par Fanny Bouteiller intitulée « Tracteur ». Alors elle écrit ces quelques mots sur la pièce que nous venons d'entendre. « Ce monstre indestructible se démarre à la main ». Plus précisément en balançant une grosse poulie. Une fois sur deux, l'éléphant se lance à l'envers et il faut recommencer. De plus, c'est parfois un semi-diesel. On part sur l'essence, puis on passe au fioul et l'explosion est provoquée par un chapeau de fonte porté au rouge. C'est un rituel fascinant car des retours de flammes peuvent jaillir de l'énorme pot d'échappement. C'est tout un programme et je pense que vous avez pu le saisir en écoutant cette pièce de Fanny Bouteiller intitulée « Tracteur ». Bonjour Nathan Nadal.
Bonjour.
Merci en tout cas de nous accorder ce moment d'entretien aujourd'hui puisque nous sommes, je le rappelle à nos auditeurs, à la Villa Gillet et la classe d'électroacoustique du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon va donner en tout cas un concert avec un certain nombre de ses étudiants tout à l'heure dans le théâtre, dans le cadre accueilli par le GMVL et dans le théâtre de la Villa Gillet. Alors Nathan Nadal, peut-être on discutait juste un tout petit peu avant qu'on démarre cet entretien de... Vous parliez de fluidité dans votre musique et de l'importance de ça. Et je trouve ça intéressant pour commencer notre entretien, justement, que vous recherchiez cet aspect de fluidité, d'espace, de circulation. C'est quelque chose d'important dans votre démarche d'écriture aujourd'hui ?
Alors, justement, je pense que l'idée d'écriture n'est pas complètement pertinente. Et c'est un point important, c'est un grand questionnement du fait qu'on appelle quand même ça de la composition.
Bien sûr.
On constitue effectivement une musique progressivement, mais j'ai beaucoup de mal à parler d'écriture parce que ça implique plusieurs étapes. Mm-hmm. Donc une étape donc d'écriture qui serait la construction de quelque chose de conceptuel, on va dire.
C'est ça.
Et qu'après il y aurait une forme de lecture
de cet objet qu'on dirait écriture
conceptuel
ou conceptuel.
Voilà, écrit quelque chose
de défini en tout cas.
Et en fait ce que j'aime beaucoup dans le travail que je fais en musique, enfin que j'ai en tout cas commencé à faire avec les études que je fais, enfin que j'ai fait avec Stéphane, puisque j'ai obtenu mon diplôme l'année dernière.
Voilà, je crois, hein, voilà, bravo en tout cas.
Merci. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette constitution de quelque chose qui, de façon complètement artisanale, si on veut, et à la fois qui est dans je vais me reprendre.
Il n'y a aucun souci.
La constitution de quelque chose de un peu inatteignable, dont on peut avoir qu'un aperçu, mais qui à la fois est complètement fini, qui est quelque chose de complètement, complètement abouti. Mmh. Alors que je pense que c'est un petit peu aberrant dans l'écriture de se dire que l'objet est fini, il existe, il constitue un objet sonore. Avant d'être interprété.
Avant d'être interprété.
Alors que donc la fluidité, pour moi, c'est une façon de, au moment de faire entendre quelque chose, au moment de jouer une pièce, je parle de fluidité, je parle de quelque chose de sensoriel,
oui, tout à fait.
Dont j'ai peur de casser un peu l'équilibre avec les points de rupture qu'on évoquait sur l'équilibre de certaines certaines enceintes, enfin de certains moyens de diffusion qui ont des endroits
peut-être
un
quelques
peu...
faiblesses ou des choses inattendues pour vous.
En tout cas, voilà, que moi je ne maîtrise pas complètement.
Voilà.
Cette fluidité-là, c'est une façon d'essayer d'accompagner, de juste permettre à ce que ça vienne dans l'espace, ce que nous on se projette dans cet objet qui se constitue. Et c'est ça qui est important, c'est que cet espace constitué soit soit pas, justement pas lisible comme quelque chose qu'on aurait écrit, mais soit quelque chose de, qu'on ressent, quelque chose qu'on, auquel on peut se laisser aller.
C'est ça, et qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on va bien vouloir se laisser aller dedans.
Voilà, on va se, vraiment, on va le, mais on, en fait, on va essayer de le vivre, on va essayer de l'éprouver. Et c'est en ça que l'idée de fluidité, pour moi, c'est vraiment pas une façon d'exprimer quelque chose où il faudrait un legato parfait. C'est plus, il faudrait idéalement être transparent, en fait, simplement être juste. Laisser passer quelque chose de ce qu'on a constitué et le laisser passer pour que tout se passe bien, pour c'est que ça. Tout le monde soit tranquille et que tout le monde
et que
en
du
ressente...
coup ose aussi aller dans ses perceptions aussi et se laisser aussi dans cette manière de mettre en facture la musique que vous allez proposer, mais du coup se laisse pénétrer et essaye aussi d'aller dans ce que vous vous recherchez à faire découvrir, à faire ressentir. Du coup, cet aspect de fluidité, cet aspect de transparence, c'est aussi un petit peu ce à quoi vous invitez peut-être ceux et celles qui viendront aussi écouter et qu'eux aussi peut-être se laissent, sans plus d'avoir des préconçus, des prédéterminés, mais se laisser aller dans la musique que vous allez leur proposer.
Complètement. Une des choses les plus terribles qu'on entend souvent dans cette musique qui, effectivement, va pas chercher à passer par l'harmonie, à une cadence, etc., très affirmée, une rythmique très, très suivie. Une des choses terribles qu'on entend, c'est souvent, à la fin des concerts, c'est des gens qui viennent dire... j'ai bien aimé, mais je crois que j'ai pas tout compris. Et j'entends bien qu'il y a des choses un peu conceptuelles qui se font, il y a des idées qui essayent de se mettre en place à travers ces possibilités que ça nous offre de triturer directement le son. Mais moi, pour ce que j'essaye de faire, en tout cas. C'est d'abord, j'ai l'idée que c'est d'abord quelque chose qui doit se ressentir, et qu'il faut se laisser aller.
Oui, mais peut-être parce que ça change leurs habitudes, en tout cas d'écouter. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, s'il n'y a pas une rythmique, s'il n'y a pas une cadence, il y a certaines habitudes d'écoute ou de référence à des musiques, et du coup, peut-être qu'ils se réfugient derrière le fait de dire il y a quelque chose à comprendre et que je n'arrive peut-être pas à saisir parce que je n'ai peut-être pas l'intellectualisme pour le saisir, alors que c'est au contraire quelque chose de très simple, très sensoriel, de peut-être des lâcher-prise aussi.
C'est quelque chose d'étonnant parce que les gens sont très habitués à entendre de la musique sans l'écouter. Donc, il y a de la musique partout, il y a quelque chose de...
C'est peut-être ça aussi un des problèmes.
À consommer. Oui, c'est pas pour rien qu'on a des mouvements d'écologie sonore, etc., des gens qui appellent à écouter juste quelque chose.
C'est ça.
Mais c'est d'autant plus étonnant qu'il leur faut absolument, je sais pas, mais que ça semble être une garantie qu'on peut ne pas écouter que d'avoir une série d'accords connus, une structure harmonique, rythmique, déterminée. Et c'est pas dommage, c'est juste étonnant et il faut le prendre en compte.
Bien sûr.
Mais c'est voilà, c'est ce que, en tout cas, ça invite à redoubler d'efforts pour une chose, c'est de faire quelque chose qui soit vivant, qui invite à pas être d'abord dans une forme d'intellectualisation, une forme de d'élévation intellectuelle, conceptuelle trop grande, et que d'abord moi ce que j'ai envie de dire, c'est je fais du son, je fais de la musique,
ça me paraît important,
qui sonne et qu'on peut entendre, dans laquelle on peut se pénétrer et s'ouvrir à des choses, à des façons de ressentir, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a conduit sur votre chemin à aller dans ces directions, dans votre parcours? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous dites tiens, c'est justement par rapport à tout ce que vous avez fait déjà, dans comment la musique s'organise, comment elle s'écoute, comment à un moment donné vous vous dites non, c'est pas ça, c'est à cet endroit-là que j'ai envie de me poser, de creuser, et notamment autour des questions que vous venez d'évoquer.
Alors moi j'ai commencé vraiment par les arts plastiques. Enfin, j'ai commencé vraiment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai fait beaucoup de...
Mais ça a son importance, effectivement, par rapport à ce que vous disiez. Même
avant ça, j'ai fait... avant que ce soit les arts plastiques, je faisais de la contrebasse, donc un instrument qui est magnifique parce que, justement, avant de devenir virtuose de la contrebasse, on se pose d'abord la question de qu'est-ce que c'est un son, corporéité ça, quel espace ça prend,
etc. Oui, on fait vraiment corps avec. On a une autre relation, voilà. De fait.
Voilà. Et puis même dans la façon de jouer, on a une certaine, on sait qu'il faut qu'on sonne à tel moment, donc il faut soit un peu anticiper, etc. Ouais. Pour faire juste ressentir quelque chose qui va pas être écouté en premier. Clairement, dans un orchestre, on n'écoute pas d'abord les contrebasses, sauf peut-être dans la neuvième, mais voilà, il y a d'abord cet aspect-là de faire un son. Et puis après, donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été présent, ouais. D'une part, et d'autre part, donc les arts plastiques. Moi, après le bac, j'ai fait la prépa, ouais. Des Beaux-Arts, j'ai fait, ouais. Une première année aux Beaux-Arts. Et je pensais faire ça, je pensais continuer une recherche avec, d'un côté, le côté très... visuel, oui. Physique, ouais. Plastique, ouais. Et d'un autre côté quelque chose de plus dans la narration. J'essayais des choses avec du texte, avec une façon d'éprouver le temps, en fait, une façon d'éprouver quelque chose qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on on est dans l'intervalle où on se confronte à quelque chose de plastique. Donc ça, c'était un peu ça partait dans des choses peu conceptuelles, mais c'était, il y avait l'idée vraiment d'éprouver quelque chose dans le temps.
Ouais.
Et progressivement, bon, pour des raisons personnelles, j'ai eu des désaccords avec certains professeurs, tout ça. J'ai quitté les arts plastiques et c'est un peu par des petits recoupements comme ça. Que je me suis lancé dans le son.
Que les ponts sont faits vers le son et que tout naturellement vous êtes allé vers le son.
J'avais essayé des choses, en fait, qui clairement utilisaient du son, qui trituraient du son dans les arts plastiques.
Oui, donc il y avait déjà cet intérêt à l'intérieur des arts plastiques.
Bah, pour faire éprouver le temps, de toute façon, c'était soit de la vidéo, donc quelque chose qui se déroulait soit dans les images, soit dans le son. Le reste, c'était un peu compliqué à maîtriser, sauf à faire de la performance, etc. Mais ça implique le corps. Ça implique qu'il y ait des choses qui m'intéressent.
D'autres choses, voilà, c'est ça.
Et moi, j'essaye vraiment de constituer des objets, de constituer un peu des univers, des choses dans lesquelles on s'installe, dans des choses qui permettent d'éprouver, qui ne sont pas d'abord dans l'affirmation de soi, l'affirmation du geste, etc. Ça, c'est un travail que je respecte, mais qui me parle moins. Moi, j'essaye de constituer des objets, vraiment. Et l'électroacoustique, c'était merveilleux pour ça. C'est de constituer un objet dont on n'a que des aperçus, que des auditions, je ne sais pas comment dire.
Oui, oui.
Mais qu'on peut essayer de s'approcher de ce qu'on a constitué, qui serait une forme de son, une forme de matière sonore qui est fixe, qui est fixée sur une bande. Et voilà, qui juste s'exprime dans un espace dans des moments, quand on prend le temps de l'écouter et de se laisser porter. Et voilà, c'est progressivement, je voulais éprouver quelque chose, laisser éprouver quelque chose dans le temps. Et progressivement, c'est devenu cet objet-là à construire. Et voilà, j'en suis très heureux. Et puis, je continue autrement maintenant.
On continue autrement aussi, voilà. Et la pièce que nous allons entendre, que vous allez donner ce soir, s'inscrit totalement dans... Vous l'avez écrite il y a combien de temps, cette pièce?
C'est vraiment l'année dernière.
C'est vraiment l'année dernière.
J'ai passé mon diplôme l'année dernière.
Donc, c'est avec cette pièce-là que vous l'avez... Elle faisait partie de vos
complètement.
Travaux. Et du coup, elle est basée aussi sur tout ce que vous venez de nous dire. Si vous nous en dites quelques mots, un petit peu de comment elle a germé.
Juste en quelques mots, donc c'est une pièce qui est basée sur les arcanes majeures du tarot.
Ouais.
Et du coup, qui sont des figures vraiment j'ai pas d'idée absolument ésotérique, j'ai pas d'idée sur ce que ça implique de vrai ou pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'idée que ça contenait, avec plusieurs figures, les possibles d'une vie, en fait, les possibles de l'univers. Ça finit, le tarot, ça commence avec le battleur, donc celui qui joue, celui qui met en jeu quelque chose de ce qu'on est, la vie qu'il interprète, qui en fait quelque chose de vivant, de drôle, de ludique. Et ça va jusque au dernier truc, au dernier arcane majeur, le 21, qui est le monde. Et du coup, entre les deux, mais il y a plein de possibles d'états, de figures symboliques qui Voilà, simplement, c'était, l'idée c'était de mettre en jeu que tous ces possibles sont là les uns
c'est
après
ça.
Les autres.
C'est ça.
Pas qu'une idée d'ordre spécialement, mais que les uns, qu'on passe par toutes ces possibilités-là.
Possibilités-là,
et
voilà.
Qu'elles soient toutes présentes. L'idée c'est que dans un jeu de tarot, il y a toutes ces possibilités, et puis après on va juste en tirer trois. Mais c'est ces objets qui sont toujours là, qui sont là avant nous, qui seront là après nous, et qui cristallisent quelque chose de ce qu'on peut être. Quelque chose de la vie, de ce qu'on peut. Voilà, de ce qu'on peut mettre en forme de soi à un moment dans sa vie. Et du coup, je trouvais ça joli et j'essaie d'en faire quelque chose, simplement.
Ben voilà. Mais en tout cas, on aura plaisir à découvrir cette pièce, suite en arcane majeure de vous, Nathan Nadal. Et puis, je vous remercie beaucoup pour ce petit moment d'échange et de conversation.
De rien. Merci à vous.
Mais
je ne savais pas
plaisir.
Du tout que j'allais...
Oui, c'était une
surprise. Il y a un instant.
Et ben voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté de cet entretien et vraiment un moment passionnant d'échange. En tout cas, voilà. À bientôt, en tout cas.
Merci à vous de travailler à tout ça et à bientôt. Du coup,
à bientôt.
À tout à l'heure.
À tout à fait.
Pour cette pièce.
Merci. Thank you.
Thank you.
Résonance sur Radio B, émission spéciale avec les jeunes compositrices et compositeurs de la classe d'électroacoustique du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. Cyril Darmedru, bonjour.
Bonjour.
Et puis, double bonjour dans le sens où on est auprès de la classe de composition du Conservatoire régional, donc ici à Lyon, donc encadré par Stéphane Borel. Il y a un concert de cette classe ici à la Villa Gillet, mais aussi en collaboration avec le GMVL. Donc c'est la bonne occasion aussi de revenir auprès du GMVL pour voir où on en est aussi dans ce projet de ce groupe de musique vivante de Lyon qui est là depuis de nombreuses années. Si ses élèves aussi aujourd'hui dans le conservatoire s'intéressent au tout devenir de l'électroacoustique, c'est grâce aussi à tout ce travail fait par les fondateurs aussi du groupe de musique vivante de Lyon, et on peut en citer d'autres, mais en tout cas en l'occurrence. Et puis on voit qu'ils continuent d'être aux côtés de ceux et celles qui s'aventurent aussi encore aujourd'hui, ces jeunes compositeurs. Donc il nous semblait aussi intéressant de pouvoir justement reparler de là où on est le GMVL aujourd'hui, avec le temps, avec cette pérennisation dans le temps. On sait que durer, c'est une chose, mais et encore, il faut pouvoir continuer à régénérer des choses, et que du coup, c'est important pour une structure comme celle-ci, peut-être de trouver encore d'autres manières de continuer d'avancer et d'accompagner ceux et celles, encore une fois, comme ceux du conservatoire qui aujourd'hui donneront ce concert tout à l'heure dans le théâtre de la Villa. Alors, où en est le GMVL finalement ?
Je vais vous raconter où en est le GMVL, mais d'abord je vais rebondir à la soirée qu'on présente, c'est une première.
Oui.
Et donc là, je suis là presque à double titre, à la fois en tant que membre du bureau du GMVL, mais aussi en tant que professeur enseignant des musiques électroniques et acousmatiques, puisque je pense que l'avenir du GMVL se tient dans ce genre de proposition en fait. Voilà. On est en pleine reconstruction du projet. On va présenter un nouveau projet à l'Assemblée Générale dans 2 mois. Et la proposition serait d'en faire un lieu ouvert au niveau local, sur un accompagnement à la fois artistique et un accompagnement des pratiques. On part sur l'idée d'un tiers-lieu qui serait une sorte de Fab Lab, avec tous les outils qui nous entourent. Quoi. On a ici, au niveau historique, on a à peu près, on peut passer du Revox aux derniers outils numériques. Voilà.
Peut-être on peut, en quelques mots, parce que certains de nos auditeurs n'ont pas non plus toute l'historicité de ce que c'est que le groupe Musique Vivante de Lyon, mais effectivement peut-être de balayer très rapidement, mais je dirais de ses origines, en tout cas de sa naissance, comme d'autres. Il y a le CRAM qui est là aussi, il y a des entités, on va dire, culturelles, musicales lyonnaises de création qui sont importantes. LGM, VL en fait partie. Peut-être en quelques mots comme ça pour,
oui, ben, en quelques mots.
Je sais que c'est un grand.
Oui, je suis pas spécialement le plus compétent pour raconter toute l'histoire du GMVL, mais on a quand même une production d'une centaine de disques.
C'est
50 ans de musique électroacoustique, donc on se retrouve en fait au début de la création dans ces domaines en fait. En sachant qu'en plus le GMVL, qui est très tourné sur l'enregistrement de la nature, des oiseaux, se retrouve en pleine actualité sur les questions d'environnement, une écoute du monde qui nous entoure, qui est peut-être amené à changer à toute vitesse. Voilà, donc,
oui, d'autant plus.
Voilà, on est un petit peu dans l'actualité par rapport à tout ça aussi.
Donc du coup, trouver aussi des manières de faire, et c'est pour ça qu'il y a un nouveau projet qui se travaille aussi en ce moment pour continuer justement cet ancrage qu'on sent assez fondamental à plusieurs endroits. Et là, il y a des choses qui se dessinent aujourd'hui pour continuer le travail du GMVL.
Alors, le GMVL a peut-être historiquement fonctionné comme un regroupement d'artistes autour de la personnalité de Bernard Faure.
Grande personnalité, il faut le souligner.
Un des grands compositeurs français dans le domaine justement des chants d'oiseaux, des enregistrements de la nature. Il a assumé une direction artistique depuis le début. Aujourd'hui, il a un peu levé le pied, et du coup on a espéré cette année voir un nouveau collectif se monter. C'est une dynamique qui a besoin d'être accompagnée, et accompagnée par un bureau associatif, mais surtout par des employés qui peuvent répondre aux différents besoins des artistes aujourd'hui, et donc notamment dans, dans le suivi de projet, dans l'accompagnement de projet, l'aide à la création et surtout recréer une économie. Il ne s'agit pas d'avoir simplement un lieu de recherche, il faut aussi que les artistes puissent vivre de leur recherche et de leurs travaux. Voilà.
Donc là, c'est tout l'enjeu un petit peu de ce qui est en train de se travailler.
C'est l'enjeu de continuer de fidéliser le travail avec tout un tas d'artistes qui sont passés depuis 50 ans, qui continuent d'œuvrer parfois un peu plus loin du GMVL. On souhaite les voir revenir, en sachant qu'on est dans une implication à la fois locale et régionale, d'artistes plus ou moins connus, mais qui sont des acteurs efficients dans leur domaine et dans leur territoire. Et puis s'ouvrir, ouvrir le lieu. On a une problématique assez claire avec le lieu. C'est un lieu qui est grand, qui est dans des conditions assez inimaginables. Il faut venir voir. Mais c'est magnifique. Il y a un parc énorme derrière.
On peut qu'encourager nos auditeurs à venir découvrir le village Gilet.
La Villa Gilet, c'est un lieu mythique de Lyon. Ici, on est dans un des studios. Il y a plusieurs studios. Mmh. Il y a un petit théâtre. Il y a des bureaux au dernier étage. Donc tout est là pour. Et en fait, on voudrait que maintenant ce lieu, en plus de la mission de développement artistique auprès d'un collectif ouvert à différents degrés d'investissement, puisse aussi servir à l'échelle locale. On s'aperçoit qu'ici on a à côté des pentes de la Croix-Rousse où il y a une grande partie des écoles primaires, collèges et lycées de Lyon. Donc on est en train de préparer un rendez-vous avec l'inspection d'académie pour l'idée, ce serait que le GMVL soit utilisé tous les jours, tout le temps en fait. Qu'il y ait des classes qui viennent tous les jours, que les gens qui veulent s'inscrire pour travailler puissent remplir un calendrier, mais venir au maximum, que le lieu soit usé, utilisé.
Réinstaller dans une proximité la plus grande,
c'est ça.
Avec le territoire, les habitants.
Un territoire local, une échelle locale. En même temps, on est capable d'accueillir des classes qui viennent un peu plus loin. Il y a la place pour garer des cars, c'est très pratique. Et aussi un développement horizontal, c'est-à-dire que l'équipe. Des employés, pour l'instant on est avec un temps plein, on ne peut pas s'en sortir, mais on voudrait réouvrir l'équipe et qu'ils puissent répondre aux demandes des artistes ou des acteurs culturels, des enseignants, faire de la formation d'enseignants, répondre à des projets déjà définis dans lesquels le GMVL peut accompagner à un endroit.
Est-ce que ça veut dire aussi en même temps revisiter les enjeux artistiques aussi ?
Alors on est déjà depuis 2-3 ans dans une ouverture au niveau artistique. De toute façon, ça restera un lieu historique de l'acousmatique. On fait une diffusion de pièces maîtresses, entre guillemets, mais il y a tout un tas de choses qu'on a envie de faire revivre. Il y a sûrement pas assez de lieux pour ça, donc on voudrait être encore un des rares lieux qui puisse le permettre.
Parce que vous avez raison, ils ont tendance à se rarifier que plutôt à se développer.
C'est ça.
Et qu'effectivement, c'est urgent aussi de pouvoir maintenir des lieux et des espaces. Peut-être aussi de trouver, quand vous parlez de proximité avec les habitants du local aussi, trouver encore d'autres modalités de diffusion, ou en tout cas de propagation aussi de cette musique.
Être capable de répondre aussi à des demandes aussi. Voilà. Oui, alors de diffusion, oui, sans doute, il y a d'autres liens.
De projets ou d'autres manières de faire.
Ne serait-ce que l'extérieur. On envisage au festival de fin juin d'investir l'extérieur. Il y a des centaines de parents et d'enfants qui passent dans la journée. On voudrait qu'ils puissent venir et jouer.
C'est revisiter les modes de représentation, de démonstration, de rencontre aussi, c'est peut-être revisiter ces choses-là.
C'est ça, c'est aussi depuis 2-3 ans un début de pluridisciplinarité, de voir aussi comment toute la connaissance à la fois technologique, technique, mais culturelle des musiques acousmatiques s'est ouvert sur d'autres pratiques. Donc il y a ne serait-ce que le jeu en temps réel, des musiques technologiques minimales ou autres, expérimentales, qui incluent tout un tas de réflexions dans le modelage du son, dans la diffusion du son. Donc on est déjà depuis quelques années dans cette ouverture-là. Et en fait, on voudrait concilier les deux, avoir une présence historique, et aussi pour encourager la recherche et la création. Voilà.
Voilà, en tout cas, au niveau de l'émission de résonance, on suivra en tout cas les évolutions, en tout cas les échéances de ce projet. Une assemblée générale est bientôt, je crois, au mois d'avril prochain.
Voilà, mi-avril, on a envoyé pas mal d'invitations aux anciens membres et on souhaite que ce soit diffusé le plus largement. Parce que c'est aussi le moyen de montrer aux institutions qu'il y a une attente. Voilà. Même s'il y a plein de choses nouvelles à construire, il y a déjà une attente.
C'est certain.
il faut qu'on soit capable de, d'être accessible à tout un tas de demandes qui pourraient être déjà, qui sont effectives en fait. Voilà.
Merci beaucoup Cyril Darmedru. Et puis c'était important dans le cadre de cette émission de pouvoir repréciser le projet, l'avenir, en tout cas les, ces enjeux importants qui se présentent pour le GNVL dans les prochaines semaines.
Merci, merci. De votre présence aussi. À très bientôt.
Résonance sur Radio B, émission spéciale avec les jeunes compositrices et compositeurs de la classe électroacoustique du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. Et donc c'est sur cet entretien avec Cyril Darmedru et les projets du GMVL que se conclut cette série de trois émissions spéciales consacrées aux jeunes compositeurs et compositrices de la classe d'électroacoustique et de musique concrète du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. J'espère que vous avez eu plaisir à cheminer à travers ces pensées, ces témoignages, ces manières d'imaginer la musique, et c'est assez vivifiant d'entendre ces jeunes compositeurs évoquer leur démarche et les œuvres et leur manière d'imaginer la musique qu'ils composent aujourd'hui. Merci donc à Stéphane Borel, professeur de la classe de composition électroacoustique du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, à toute l'équipe du GMVL, groupe de musique vivante de Lyon, et à l'équipe de la Villa Gilet pour nous avoir facilité la réalisation de cette série d'émissions. Cette émission de Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, la présente émission à l'antenne et en podcast, sans modération, sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Et bien sûr, vous pouvez, comme d'habitude, nous communiquer vos commentaires sur la page Facebook de Résonance Contemporaine. Voilà. Restez sur Radio B, continuons à résister et restez toujours chez vous. Au revoir.